C'est le Saint-Esprit qui fait de l'homme un être spirituel. Lui seul le peut et il le fait très certainement chaque fois qu'on se livre entièrement à lui. Être entièrement pénétré et sanctifié par le Saint-Esprit, placer sous son contrôle l'esprit d'abord, puis l'âme avec sa volonté, ses sentiments et ses facultés intellectuelles, et lui soumettre le corps aussi, voilà ce qui rend l'homme spirituel, et ce qui prouve qu'il l'est. Répétons-nous ces mots, qui seront la force de notre vie. Le Saint-Esprit demeure en moi, c'est dans mon esprit qu'est son sanctuaire invisible. À mesure que notre foi saisira mieux ce qu'il est et ce qu'il veut faire, à mesure aussi que nous verrons mieux qu'il ne l'a pas encore fait, nous voudrons savoir ce qui l'en empêche, et nous découvrirons que c'est la chair, et nous rejetterons de notre vie tout ce qui est charnel. C'est là l'obéissance qui nous est demandée. Dès que nous croyons au Saint-Esprit qui est en nous, nous savons que nous avons la force nécessaire pour marcher par l'Esprit, nous n'avons qu'à nous abandonner à son action puissante, et recevoir de lui le vouloir et le faire selon le bon plaisir de notre Dieu. Philippiens 2, 13. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Pour nous faire comprendre que Dieu, habite en nous par le Saint-Esprit, l'Écriture nous compare à un temple. Cherchons donc à voir quelle analogie peut exister entre le temple de Jérusalem et nous-mêmes. Le temple avait été construit d'après le modèle qu'en avait vu Moïse sur le mont Sinaï, il était ainsi le reflet des vérités spirituelles et divines qu'il symbolisait, et au nombre de ces vérités se trouve la triple nature de l'homme. L'homme avait été créé à l'image de Dieu, le temple ne signifie donc pas seulement ici un lieu où l'homme puisse aller chercher Dieu et se rapprocher de lui, il nous symbolise en outre l'entrée de Dieu en l'homme, de Dieu faisant sa demeure en lui. La division du temple, en trois parties nous est, bien connue. Le parvis extérieur, visible à tous, dans lequel tout Israélite pouvait entrer ou se faisait une partie du service de Dieu, le lieu saint dans lequel les prêtres seuls entraient pour offrir à Dieu le sang ou l'encens, le pain ou l'huile qu'ils apportaient du premier parvis. Le souverain sacrificateur seul, entrait une fois par an dans le lieu très saint, pour faire mieux comprendre l'impossibilité pour tout autre de pénétrer derrière le voile, jusqu'à ce que celui-ci fût déchiré et enlevé. L'homme est le temple de Dieu. En lui aussi se retrouvent ces trois divisions. Son corps est le premier parvis. C'est là que se manifeste sa vie extérieure, c'est là que toute sa conduite doit être réglée par la loi de Dieu. En outre, l'homme a une âme, qui vit d'une vie intérieure, qui possède intelligence, sentiments et volonté. Pour l'homme régénéré, l'âme est le lieu saint où les pensées, les affections et les désirs vont et viennent comme jadis les prêtres du sanctuaire lorsqu'ils faisaient devant Dieu le service requis. Enfin vient derrière le voile le sanctuaire intime, caché à tout regard, à toute lumière terrestre, le secret du Très-Haut, où Dieu habitait, où l'homme ne peut pénétrer jusqu'à ce que le voile soit déchiré par l'ordre même de Dieu. L'homme possède non seulement un corps et une âme, il a encore un esprit. Au-delà du domaine de l'âme, existe en lui une nature spirituelle qui le relie à Dieu. Chez le croyant, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter, c'est de là qu'il accomplit son œuvre glorieuse, sanctifiant l'âme et le corps pour le Seigneur. Ce n'est que lorsque le croyant apprend par la foi à trembler en présence de ce merveilleux mystère « Vous êtes le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous », qu'il se consacre à sa haute vocation avec le saint respect et la joyeuse confiance qu'il doit avoir. Prenons la peine de croire que réellement Dieu veut faire ce qu'il nous dit et répétons-nous « Je suis un temple semblable à celui qui fut construit jadis par l'ordre de Dieu. Dieu veut que je voie là ce que je suis moi-même. » Le lieu très saint en formait le point central, essentiel. Longtemps il restait voilé au regard et plein de mystères, objet de la foi des prêtres et du peuple, jusqu'au moment où le voile tomba. En moi aussi le lieu très saint reste invisible et caché, ma foi seule en reconnaît l'existence. Plus cette pensée remplira le cœur, plus aussi la foi à cette présence invisible deviendra ferme, et bientôt le lieu saint recevra le reflet vivifiant du lieu très saint. Toute notre âme alors avec ses pensées et ses sentiments, avec ses affections et ses aspirations, en viendra à faire sa soumission devant la divine puissance qui règne au-dedans de nous. Ô Dieu très saint, je me prosterne devant toi et je t'adore à l'ouïe de ce mystère de ta grâce. Mon esprit, mon âme et mon corps sont ton temple. En silence et avec adoration je reçois ce que tu daignes me révéler, c'est qu'en moi existe un lieu très saint où ta gloire est cachée. Ô mon Dieu, pardonne-moi de l'avoir si peu compris jusqu'à présent. Esprit Saint, toi qui enseignes, toi qui sanctifies, tu es en moi. C'est à toi que je m'attends tout le jour. Je t'appartiens. Oui, prends possession de mon être tout entier, pour le Père et pour le Fils. Amen. L'esprit et la chair. Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Galates 3, 3. Lire Philippiens 3, 3. La chair est le terme qu'emploie l'Écriture pour désigner notre nature déchue, soit le corps, soit l'âme. Quand l'âme céda à la tentation des sens, elle rompit avec l'esprit et tomba sous la domination du corps, elle devint ainsi chair. À présent, la chair, non seulement est privée de l'esprit, mais lui est hostile, la chair, à des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, 17. La chair est en lutte avec l'esprit de deux manières, tout d'abord, en péchant contre la loi de Dieu, mais aussi en cherchant à servir Dieu. Quand l'âme a cédé aux sollicitations de la chair, elle s'est confiée en elle-même au lieu de se confier en Dieu, auquel la rattachait l'esprit. Le moi prévalut ainsi sur la volonté de Dieu, le moi devint le principe dominant, et maintenant le moi est si subtil et si puissant, qu'il conserve son empire, non seulement en péchant, directement contre Dieu, mais encore en cherchant à le servir. Galates 3, 3. Si on ne s'est pas entièrement soumis à l'esprit, si on ne continue pas de jour en jour à tout attendre de lui avec humilité et docilité, on passe très vite de la confiance au Saint-Esprit à la confiance en la chair. C'est ainsi que tout effort de la chair, pour servir Dieu devient la force même du péché. Ceci peut paraître paradoxal, mais n'en est pas moins vrai. Les pharisiens avec leur propre justice en sont un exemple. Par leur religion charnelle, ils étaient devenus la proie de l'orgueil et de l'égoïsme, les esclaves du péché. Pour pouvoir renoncer au moi, dans nos rapports avec le prochain, pour pouvoir triompher de l'égoïsme, de la colère sincère et du manque de charité, il faut commencer par renoncer au moi dans nos rapports avec Dieu. C'est là que l'âme, le siège naisse du moi, doit apprendre à s'incliner devant l'esprit qui vient de Dieu. Jésus-Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Quand la confiance en la chair s'allie à la doctrine qui glorifie Christ, elle compte sur sa propre sagesse, et alors c'est surtout en recourant à la force de l'intelligence qu'on étudie l'Écriture, qu'on l'écoute et qu'on croit ce qu'elle dit, tandis qu'on insiste très peu sur l'absolue nécessité de recevoir l'enseignement direct de l'Esprit. Quand nous recevons Christ, en nous par le Saint-Esprit, nous avons non seulement la sagesse de Dieu, mais aussi sa force. Écoutez, mon frère, ce que la parole de Dieu vous dit aujourd'hui. C'est la confiance en la chair qui vous a empêché de vous glorifier en Jésus-Christ. C'est votre moi qui a voulu faire ce que l'esprit seul peut faire, c'est votre âme, l'ensemble de vos facultés et de votre intelligence qui a pris la haute main en vous, espérant que l'esprit viendrait seconder ses efforts, tandis que c'est à l'esprit qu'il fallait laisser la direction suprême et tout attendre de lui. Vous avez voulu suivre Jésus, sans renoncer à vous-même, Matthieu 16, 24. Ici je dois insister de nouveau sur la vérité divine que tout ce livre cherche à faire comprendre. Glorifiez-vous en Jésus-Christ. Glorifiez-vous en lui, parce qu'il est lui-même le Christ, glorifié qui baptise du Saint-Esprit. Avec confiance et simplicité, croyez qu'il a déjà envoyé son Esprit en vous. Croyez en ce don. Croyez que le Saint-Esprit habite en vous, et voyez là le secret de toute vie de Christ en vous. Je dois me glorifier en un Sauveur, dont le Saint-Esprit révèle en moi la présence et la gloire. Et par là je renvoie la chair à sa place, sur la croix, la place de tout ce qui est déchu et maudit. Voilà ce qui met fin à toutes les œuvres de la chair. Toute ma religion consistera donc à ne plus me confier en la chair, mais à me glorifier en Jésus-Christ, à adorer et servir Dieu, par son Esprit en moi. Vous, croyants, qui avez commencé par l'Esprit, continuez et persévérez à marcher par l'Esprit. Que votre mot d'ordre soit défiance de la chair. Et que cette défiance de vous-même, jointe à la crainte d'attrister le Saint-Esprit, en marchant selon la chair, vous maintienne dans la plus grande humilité devant Dieu. Demandez à Dieu de vous envoyer l'Esprit de révélation, pour vous faire voir que c'est Jésus qui est tout, qui accomplit tout, que c'est lui-même qui règne et garde, qui guide et vivifie, et que par la présence du Saint-Esprit, en vous une vie divine, doit remplacer votre ancienne vie. Amen. L'Esprit par la foi. Christ nous arrache de la malédiction de la loi. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13, 14. La première fois que l'Écriture mentionne le mot de foi, c'est à propos d'Abraham. Abraham crut à l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice. Genèse 15, 6. Voilà le secret de son obéissance, de tout ce qui le rendait agréable à Dieu. C'est ainsi qu'il devint le père de tous ceux qui croient. Romains 4, 11. Tous les enseignements que nous pouvons retirer de la vie d'Abraham se résument ces mots: recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. La vie d'Abraham nous montre ce qu'est la foi. C'est le sens spirituel par lequel l'homme reconnaît et reçoit la révélation de Dieu. Tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit y a affaire avec la parole, plutôt qu'avec le Dieu vivant. On a dit avec raison de la foi, que c'est prendre Dieu au mot. Il ne suffit pas de croire que la parole soit de Dieu, c'est lui qu'il faut prendre au mot. La foi qui prend possession des promesses s'attend à Dieu lui-même, croyant que c'est lui qui parle, que c'est lui encore qui accomplit ce qu'il a dit. La foi est une véritable communion avec Dieu, la foi est un entier abandon à Dieu, elle réalise son approche, elle sait qu'il prend possession de l'âme par sa parole, qu'il l'a gardée, la prépare à travailler pour lui. Dès que la foi a été éveillée dans le cœur, elle est attentive à saisir la moindre indication de la volonté de Dieu, à accueillir toute manifestation de sa présence et à compter sur l'accomplissement de ses promesses. Quand nous avons pris cette position devant Dieu, tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit, qui a déjà eu accès en nous, nous révélera davantage encore tout ce que Dieu a préparé pour nous et nous serons maintenus dans un sentiment d'humble dépendance. Nous serons ainsi préservés de cette vie d'efforts répétés, qui ne mène souvent qu'à des déceptions et des chutes, parce que tout en cherchant à servir Dieu en esprit, on met encore sa confiance en la chair. Cette foi-là aura ses épreuves. Isaac, donné de Dieu à Abraham, et reçu de lui par la foi, dut être voué à la mort, afin de devenir un type de résurrection et de vie. C'est par la foi que nous recevons l'Esprit qui a été promis, et plus notre foi s'affermit et s'étend, plus aussi nous sommes remplis de l'Esprit. À chaque nouvelle révélation de Dieu, Abraham recevait un redoublement de foi et de communion intime avec Dieu. Quand son Dieu venait à lui, il savait ce qu'il pouvait attendre de lui, il savait qu'il pouvait avoir toute confiance en lui, même au milieu des circonstances les plus contraires en apparence, même lorsque Dieu lui demandait la mort de son fils. Amen. La foi est agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Et pourquoi ? Parce que la foi nous fait sortir du moi pour donner à Dieu seul la gloire, pour regarder au Fils de Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu. La foi n'est pas seulement la conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont vraies, car cette foi-là est aussi au pouvoir de la chair. La foi est la faculté spirituelle par laquelle on peut s'étendre au Dieu vivant, l'écouter, recevoir de lui-même sa parole et avoir communion avec lui. C'est quand nous cultivons cette faculté-là, quand nous vivons habituellement de cette foi-là, que l'Esprit peut agir librement et se répandre abondamment. « Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Jean 7, 38. Marchez par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, et n'accomplissez point les désirs de la chair. Ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié la chair, avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates 5, 16, 24, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Le chrétien vivant n'a point de repos, qu'il ne sache toute sa conduite, sous le contrôle de l'Esprit. Il marche par l'Esprit et par conséquent il n'accomplit point les désirs de la chair. Le chrétien qui s'efforce de marcher d'une manière digne de Dieu et de lui plaire en toutes choses est souvent troublé par le pouvoir, qu'a encore le péché sur lui, et il se demande pourquoi si souvent il est incapable de le vaincre. Il se dit que c'est sans doute parce qu'il manque de foi ou de fidélité, et il en accuse tantôt sa faiblesse naturelle, tantôt la puissance de Satan. Qu'il ne se contente pas de cette solution-là, mais qu'il cherche plutôt à comprendre comment il lui sera possible de surmonter tout ce dont Christ lui a acquis l'affranchissement. Qu'il apprenne à reconnaître que le grand obstacle à l'action de l'Esprit de Dieu, que le dernier ennemi a terrassé, c'est la chair. C'est quand on sait ce qu'est la chair, quand on sait comment elle agit et comment il faut la traiter qu'on peut la vaincre. C'est pour l'avoir ignorée que les Galates se fourvoyèrent d'une manière si fâcheuse, continuant par la chair ce qui avait été commencé par l'esprit. Galates 3, 3. Ils ne savaient pas à quel point la chair est déchue et incorrigible. Ils ne savaient pas qu'aussi longtemps que la chair, que l'effort et la volonté propre, cherchent à s'initier dans le service de Dieu, on reste par là même au service du péché, et que le seul moyen d'empêcher la chair de faire le mal, est de l'empêcher de chercher à faire le bien. Paul cherche à enseigner aux Galates que l'esprit, et l'esprit seul, est la force de la vie chrétienne, et que cette force ne peut agir que si la chair lui est entièrement assujettie. Quand Paul nous dit de marcher par l'esprit, et qu'il ajoute ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié la chair, avec ses passions et ses convoitises, Galates 5, 16-26, il nous enseigne là le seul moyen d'être affranchi de la chair. Après la chute, Dieu dit de l'homme il n'est que chair. Genèse 6, 3. Toutes ses facultés, son intelligence, ses sentiments et sa volonté sont sous la domination de la chair. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. Ce que Christ a accompli sur la croix, par l'Esprit éternel, il l'a accompli au nom de la nature humaine. Ceux donc qui reçoivent en Christ celui qui a été crucifié, reçoivent non seulement ce que leur mérite sa croix, mais la force même que leur acquiert cette croix. Leur vie est donc la vie de Christ dans les cieux, qui les fait participer à l'essence même de la personne et du caractère de Christ. Ils ont crucifié la chair, avec ses passions et ses convoitises. Comment faut-il comprendre ces mots « ils ont crucifié la chair » ? Crucifier la chair, c'est la livrer à la malédiction. La croix et la malédiction sont inséparables, maudit et quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21, 23, Galates 3, 13. C'est donc dire quelque chose de très sérieux et solennel que de dire « notre vieil homme a été crucifié avec lui, je suis crucifié avec Christ ». C'est dire « j'ai reconnu que ma nature déchue, mon moi, mérite la malédiction ». J'abandonne et place sur la croix mon vieil homme, ma chair, mon moi, avec sa volonté et ses œuvres, comme pécheur, souillé et maudit. Pour que cette vérité devienne notre force, il faut la connaître, la recevoir et agir en conséquence. Si je ne vois dans la croix qu'un acte de substitution, sans voir là ce dont Paul se glorifiait, une participation à la croix Galates 6, 14, jamais je ne pourrai éprouver son action sanctifiante. Cette communion spirituelle se maintient par la foi, et me permet de dire je suis d'accord, avec ce que pensait Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée de péché, qu'il la voyait et ne méritant que malédiction. J'accepte donc la croix et sa mort, pour tout ce qui est cher, cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'empire du moi et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ. Il faut voir la chair comme Dieu la voit. Amen. Plusieurs personnes trouveront qu'il est dur d'entendre dire de notre homme naturel, de notre chair, de notre moi qu'il est maudit. Oh ! Il est facile de décorer la croix de fleurs et d'en dire mille belles choses, mais Dieu dit de la croix qu'elle est malédiction. Le Fils de Dieu sur la croix a été fait malédiction. Galates 3, 13. Si ma chair est crucifiée, ce ne peut être que parce qu'elle est maudite. Dans la vie d'un homme, le moment où il voit clairement que le péché est maudit est un moment heureux, mais il en est un plus béni encore et plus humiliant aussi, c'est celui où Dieu lui fait comprendre quelle malédiction pèse sur la chair, où il découvre combien il a aimé la chair, combien, pour lui complaire, il a attristé le Saint-Esprit de Dieu. La chair et l'esprit sont deux puissances. Tout acte de notre part vient de la prépondérance, en nous de l'une ou de l'autre. Que chacun de nos pas soit conduit par l'esprit. L'esprit d'amour. Le fruit de l'esprit est l'amour. Galates 5, 22. Dieu est esprit, Dieu est amour. Jean 4, 24, 1 Jean 4, 8. Par ces deux mots, l'Écriture cherche à nous donner ce que le langage humain appellerait une définition de Dieu. Comme esprit, Dieu a la vie en lui-même, il est indépendant de tout ce qui l'entoure, et il possède le pouvoir de faire pénétrer partout sa vie, de la communiquer à qui il veut. C'est parce que Dieu est esprit, qu'il est le Père des esprits, qu'il est le Dieu de la création et qu'il est aussi le Dieu et le Rédempteur de l'homme. Toute vie doit son existence à l'Esprit de Dieu, et il en est ainsi parce que Dieu est amour. Aussi quand l'Esprit vient à nous, il nous vient tout chargé de l'amour de Dieu et de Jésus, car l'Esprit est l'amour même de Dieu. Aussitôt que l'Esprit entre en nous, il nous fait connaître l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit Romains 5, 5. Il ne saurait en être autrement puisque l'amour de Dieu est la vie même de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit est donc l'effusion de l'amour divin, et dès que nous recevons le Saint-Esprit, cet amour prend possession de notre cœur. C'est le même amour dont Dieu aime Jésus, et dont il nous aime, qui vient habiter en nous. Dès que nous le savons, que nous le croyons, et que nous nous livrons à lui, il devient en nous la force divine, qui nous fait vivre de sa vie. Nous avons vu que l'âme, siège naisse de la conscience humaine, devait être assujettie à l'esprit, siège n'est-ce de la présence divine? Le moi qui avait refusé de reconnaître les droits de Dieu, refusa aussi de reconnaître ce qu'il devait à ses semblables, et depuis ce moment la déplorable histoire du péché dans le monde retrace l'origine, le développement, la puissance et le règne du moi.